Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Capillaire Fréquence de la Paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La RDC est un pays destiné à devenir une nation puissante sur l'échiquier africain et mondial. Mais plus de 60 ans après l'indépendance, le pays peine à sortir du sous-développement et devenir une nation forte, prospère et puissante. Selon certains intellectuels congolais, cette situation est due au manque d'un leadership collectif. En l'instar d'autres peuples africains, la majorité des Congolais ont le regard tourné vers les gouvernants et attendent de tout de ceux qui les gouvernent plutôt que de s'approprier chacun ce qui le concerne. La marche vers le développement sans une conscience collective, il n'y a pas lieu d'espérer bâtir une nation puissante, affirment certains experts. D'aucuns estiment en revanche, il revient plutôt à l'élite congolaise d'avoir une vision et de développer des stratégies pour la matérialisation de cette vision en vue de bâtir une nation forte et prospère. Que pensez-vous du leadership collectif ou de la conscience collective dans le développement d'un pays? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook. Parole aux auditeurs pour aussi réagir par courriel à pa@radiocapi.net ou alors composer les 099-716-80-79. Dieudonné Nyangasa est à la mise en ordre de ce magazine. Julie Fezabongonda sur la réalisation et la coordination micro. C'est Marcel Ngombombal à toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Merci encore une fois de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous allons tout de suite avoir notre invité qui va faire son entrée dans ce studio pour aborder cette question sur le développement d'un pays, comment bâtir un leadership collectif. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir dans ce studio Silas Makangu. Il est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, doctorant en politique internationale et en management stratégique et opérationnel. Il faut aussi le dire, il est aussi pasteur et homme d'affaires. Vous étiez nombreux à réagir par rapport à ce sujet. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook Parle aux auditeurs. Et puis on verra au fur et à mesure comment on va lire vos réactions. Je rappelle le numéro d'appel si vous voulez intervenir. Composez 099-716-80-79. Comme je le disais, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Silas Makangu. Silas Makangu, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes conférencier, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes également doctorant en politique internationale et en management stratégique opérationnel. Bon, il faut aussi le dire, vous êtes pasteur et homme d'affaires. Vous avez même publié un ouvrage que j'ai devant moi, que j'ai sous les yeux. Bâtisseur des nations, émergence d'un leadership collectif. Comme je le disais, la RDC est un pays destiné à devenir une nation puissante sur l'échiquier africain mondial. Mais plus de 60 ans après l'indépendance, le pays peine à sortir du sous-développement et devenir une nation forte, prospère et puissante. Selon certains intellectuels congolais, cette situation est due au manque d'un leadership collectif. En l'instar d'autres peuples africains, la majorité des Congolais ont le regard tourné vers le gouvernant et attendent tout de ceux qui les gouvernent plutôt que de s'approprier chacun ce qui les concerne. La marche vers le développement sans une conscience collective, il n'y a pas lieu d'espérer bâtir une nation forte, puissante et prospère. Donc, estime en revanche, il revient plutôt à l'élite congolaise d'avoir une vision et de développer des stratégies pour la matérialisation de cette vision en vue de bâtir une nation. Voilà, on va développer tout ça avec notre invité. C'est la première question qui me vient à l'esprit. Le leadership collectif, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça?
Merci, monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion de saluer vos auditeurs.
Auditeurs, oui.
Voilà. Lorsqu'on parle du leadership collectif, c'est juste en comparaison de ce qu'elle beaucoup prône le leadership messianique. C'est-à-dire, lorsqu'il est question du leadership collectif, il est question ici de considérer que le leadership est conçu comme un ensemble, est conçu comme une corporation. Ici, il est question de comprendre que nous n'avons pas à faire ou à regarder porte vers un individu, peu importe les talents, peu importe la position qu'il occupe, mais ici nous voulons faire appel à un groupe d'hommes, ce qu'on appelle autrement l'intelligentsia, ce que vous avez tantôt évoqué en parlant de l'élite.
Oui.
Donc le leadership collectif, c'est ce leadership qui est en fait une synergie, qui est une composition des hommes et des femmes, épris de bonne foi, de valeurs morales, de valeurs spirituelles et même de valeurs intellectuelles, œuvrant chacun dans différents domaines. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez avec moi, le mal de l'Afrique, et du Congo en particulier, c'est de croiser les bras et d'attendre l'avènement d'un Messie, d'attendre un homme providentiel qui, par lui seul, par un bâton magique, viendrait résoudre tous les problèmes auxquels nous faisons face.
Mais alors, on a vu ailleurs de personnages qui étaient des véritables icônes, qui ont apporté vraiment une vision. On peut parler, par exemple, de Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud. Il a apporté une vision qu'il a transmise, en tout cas, à l'ensemble des Sud-Africains.
Mais ce que Nelson Mandela a fait n'aurait pas existé si il n'y avait pas un leadership au niveau économique et entrepreneurial. La force de l'Afrique du Sud que vous évoquez tantôt n'est pas simplement le résultat de ce que Mandela a pensé et a fait, mais c'est aussi parce que Mandela a bénéficié d'un fondement économique bien établi, d'un monde des affaires bien connu et même d'un monde scientifique qui travaillait comprenant quelle était sa vocation et quelle était sa mission. Donc ici, il est question de comprendre, même quand on aura un homme, mais son devoir à lui serait de fédérer. Fédérer ces différentes intelligences, fédérer ces différentes visions, fédérer ces différents hommes et femmes, œuvrant chacun dans un domaine qui est le sien, pour regarder dans une même direction. Cela ne fait pas de lui, de Mandela, un messie. Parce que lorsqu'on parle du leadership collectif, c'est en comparaison ou en contradiction avec le leadership messianique. Leadership auquel beaucoup d'Africains, et le Congolais en particulier, attendent. Donc si on a un Mandela qui aujourd'hui peut être apprécié comme père moderne de la République sud-africaine, c'est aussi parce que cette République sud-africaine a bénéficié d'un savoir collectif. Parce qu'il n'y avait pas eu que Mandela. Quand vous lisez l'histoire de l'apartheid, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des gens comme de Sisulu, il y a eu des gens comme Mbeki, le père de Thabo Mbeki, il y a eu des gens qui ont travaillé, et même Frédéric de Klerk, qui d'autre part étant ennemi ou encore adversaire à l'ANC, mais a quand même contribué à ce que l'on parvienne à cette accalmie pour que tout le peuple sud-africain regarde dans une même direction et
mais
devienne...
Mais c'est ça, hein. On parle souvent de Nelson Mandela, mais on oublie des fois aussi le rôle qu'a joué Frédéric de Klerk.
En effet.
Il pouvait aussi accompagner
voilà.
Ces combats de Mandela, voilà. Rester comme un cacique de l'apartheid, comme ceux qui l'ont précédé.
Et ici, il faudrait préciser, monsieur le journaliste, que quand on parle de Nelson Mandela, on ne voit que sa lutte politique.
Oui.
Mais la lutte politique ne peut pas donner tous les fruits escomptés, ne peut pas produire autant de résultats dans un domaine où économiquement rien ne marche, dans un domaine où culturellement on ne sait pas s'identifier, dans un domaine où artistiquement rien n'est fait. C'est-à-dire que le leadership collectif fait appel aux différentes intelligences, aux différents savoirs, exerçant et opérant dans différents domaines. C'est toute une synergie pour regarder dans une même direction. Et celui que l'on croit être leader a pour rôle de fédérer. Il devient le maestro. Voyez-vous, il devient le maestro qui balise la voie, qui indique l'itinéraire, afin que tous ceux qui travaillent dans les domaines différents regardent dans cette même direction.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire en sorte qu'il y ait, pour le cas de la RDC, cette émergence du leadership collectif ou cette conscience collective?
Il faudrait d'abord arrêter de ne regarder que aux acteurs politiques.
Mais les gens estiment que c'est ceux qui ont les affaires en main,
ils ont les
qui doivent conduire la nation à travers une vision.
Aujourd'hui, quand vous regardez notre situation, la RDC, vous allez vous rendre compte qu'il y a un désintéressement, il y a une démission collective. Voyez-vous, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde voudrait quitter les auditoires, quitter les centres de recherche, quitter les églises, quitter les studios, la caméra, ainsi de suite, pour tous se ruer vers la politique, parce que l'on croit que seule la politique pourrait apporter les changements dont on a besoin. Mais ici, il est question, monsieur le journaliste, de comprendre, nonobstant le pouvoir, combien important qu'à l'homme politique, à lui seul, il ne peut pas relever ce pays. Il faut l'implication de toutes et de tous. Il faudrait l'implication des acteurs culturels. Il faudrait l'implication des acteurs scientifiques. Il faudrait l'implication objective des objectifs, des artères religieux. Nous sommes face à un mal profond et un mal énorme. Le mal est tellement complexe que croire que l'homme politique, simplement en signant des ordonnances ou des décrets, mettrait fin à la situation que nous sommes en train de traverser, alors, mon cher ami, nous allons entendre longtemps. Or, ici, le devoir de l'homme politique, c'est d'accepter, c'est d'avoir cette élégance intellectuelle, de comprendre que face à un mal aussi profond et complexe, il faut l'implication de la crème de manière générale. Faire appel à l'intelligentsien. Or, l'intelligentsien est pluriel. L'intelligentsien, elle est scientifique, elle est culturelle, elle est journalistique, elle est religieuse, elle est sportive. Donc, pour avoir une nation forte aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un super homme, mais on a besoin d'une élite forte et visionnaire. Voilà ce qu'il faut faire pour notre pays.
Alors, si je comprends bien, il faut que tous les Congolais, chacun dans son secteur, puisse s'approprier une vision et voir dans quelle mesure on peut matérialiser cette vision.
Et c'est ça justement le rôle de celui-là qu'on appelle le leader. Faire comprendre aux autres que vous n'avez pas qu'attendre de moi. Vous avez vous aussi l'obligation de mettre la main dans la pâte. Parce que le mal, lorsque l'on ne regarde qu'à un seul individu, sa disparition nous replonge dans les malheurs. Or, le plus grand test de leadership, c'est lorsque la vision pour laquelle l'on s'est battu peut continuer même après votre mort. Et pour cela, il faudrait apprendre à déléguer. Déléguer les responsabilités, déléguer les ambitions, amener toutes et tous à regarder dans cette même direction pour que l'on travaille et aboutisse à cette vision. Mais au départ, le plus grand devoir de cet homme qu'on appelle le leader, c'est celui de nous dire où est-ce que nous allons. C'est celui de nous dire pourquoi nous allons y aller. C'est celui de nous dire est-ce que ce que nous sommes en tant qu'humains, ce que nous sommes en tant qu'hommes, est en adéquation avec ce que nous voulons devenir. Parce que en regardant très bien de manière profonde ce qu'est le Congo est devenu aujourd'hui, vous comprendrez que notre plus grande crise, loin d'être d'abord une crise sécuritaire, est avant tout une crise d'hommes. Or, les hommes, on les façonne. Et le rôle du leader, justement, c'est de nous brosser les profils de l'homme congolais qu'il faut, les profils de l'homme congolais dont nous avons besoin pour qu'en 2050, par exemple, en 2060, nous cessons d'être cette nation toujours assistée, mais devenir une nation qui assiste les autres et qui montre la voie à la région de Grand Lac et pourquoi pas au continent africain, ce que c'est réellement le développement. Et pour cela, Nous n'avons pas à ne regarder qu'à un seul individu. La faiblesse de cet individu, c'est de croire qu'il remplace Dieu. La faiblesse de cet individu, c'est d'extrapoler sur ses compétences. La faiblesse de cet individu serait de croire que par lui seul, il va résoudre les problèmes. Le premier rôle de cet individu, c'est de se constituer une masse, c'est de se constituer un groupe. Et ce groupe, il doit recruter ces hommes et ces femmes dans différents secteurs. Monsieur, quand vous regardez les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas que les produits des politiciens George Washington, Benjamin Franklin, c'est aussi les produits des hommes comme Henry Ford, qui lui n'était pas politique, mais qui a apporté de son sien, qui a apporté de son savoir, qui a apporté de sa contribution dans les domaines économiques. Donc aujourd'hui, le leadership collectif est un ensemble de leaders ressortissants de différents secteurs de la vie, où chacun s'érige en modèle, où chacun peut être considéré comme un exemple à suivre, mais aussi un exemple à dépasser. C'est alors que nous allons sortir du bourbier dans lequel nous sommes pour devenir réellement une nation forte.
Mais déjà, c'est bien ce que vous dites, mais pour arriver à faire comprendre cela, pour arriver à intérioriser cette façon de voir au sein de l'intelligence congolaise, c'est déjà un problème. En tout cas, l'homme, l'intellectuel congolais apparaît aujourd'hui un intellectuel corrompu sur le plan intellectuel, sur le plan de mettre l'être humain au centre de préoccupation.
Mais justement parce que cet intellectuel lui-même n'a pas été pensé, comment est-il devenu intellectuel? D'ailleurs, la question, est-ce qu'il faut l'appeler intellectuel ou bien il faut juste l'appeler universitaire? J'opterais beaucoup plus pour l'appellation universitaire en lieu et place de l'intellectuel. Parce qu'un intellectuel ne se corrompt pas. Un intellectuel ne détourne pas. Un intellectuel n'agit pas en fonction de la mandature. Un intellectuel agit en fonction des nouvelles générations. Et pour qu'on y arrive, on ne tombe pas du ciel. Voyez-vous, les femmes accouchent des enfants dans la maternité. Mais une société qui se respecte change ses enfants pour en faire des capitales humains. C'est-à-dire donner à la nation, à la société, des hommes, comme j'ai dit, des hommes achevés. Moralement achevé. intellectuellement achevés, physiquement achevés. Des hommes qui ont compris pourquoi ils vivent et pourquoi ils ont été placés dans ces territoires. Les hommes qui ont compris que leur devoir n'est pas simplement d'occuper les territoires, mais plutôt leur rôle, c'est de transformer ces territoires, les rendre beaucoup plus viables, non pas seulement pour eux, mais pour les générations à venir. Et pour qu'on y arrive, il ne faudrait pas laisser le temps au temps, parce que c'est aussi l'une des erreurs que nous commettons en tant qu'universitaires congolais. Nous avons tellement laissé le temps au temps, croyant que le temps par lui-même allait changer les choses ou allait améliorer les choses. Or, le temps est neutre, le temps nous donne ce que nous avons fait de lui. Il faudrait un véritable chantier, mais cette fois-là, ce ne sont pas des chantiers des infrastructures, mais des chantiers de ce que j'appelle la suprastructure. Et c'est quoi cette suprastructure? C'est la structure humaine. L'homme congolais, qui est-il? Quelle est la relation que cet homme a avec sa terre? Quelle est la relation que cet homme a avec son prochain? Comment le Congolais perçoit le Congo? Et quelle est la perception que les autres ont du Congo? Et pour qu'on y arrive, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire, il faudrait faire passer cet homme par une moule. Et cette moule, c'est entre autres ce qu'on appelle l'école, l'éducation. C'est-à-dire les hommes que nous apprécions sous d'autres cieux, qui ont réussi à faire de leur pays des oasis de paix, qui ont réussi à faire partir leur pays de la précarité à la prospérité, ne sont pas des super-hommes, ne sont pas des anges, mais ce sont simplement des hommes qui sont passés par une transformation. Et cette industrie de la transformation humaine, c'est ce qu'on appelle l'éducation.
Et vous pensez que cette transformation pour l'homme congolais, de manière générale, on peut arriver à cela, ou bien c'est vraiment un grand travail de fond à faire?
C'est un grand travail compte tenu des enjeux. Grand travail parce que le Congo, différemment de beaucoup d'autres pays du monde, vit sous pression. Tout le monde a les yeux rivés sur lui. Ainsi, on ne lui laisse pas le temps de s'émanciper intellectuellement et moralement et même spirituellement. Mais ce grand travail n'est pas impossible. Ce qui nous manque, c'est de la motivation et de la volonté. Mais pour qu'on y arrive, il faudrait se poser la question, pourquoi allons-nous nous lancer dans un tel chantier? Parce que ce chantier est tellement énorme qu'il faudrait au préalable définir ce que nous voulons être. Le comble, monsieur le journaliste, c'est que nous voulons changer le Congo sans changer le Congolais. Or, il nous suffirait de changer le Congolais, on aurait un Congo
Mais ce combat de changer l'homme congolais, ça commence, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont pensé, mais changer l'homme congolais.
Je vous dirai, vous serez peut-être surpris que je vous dise, ce travail n'a jamais été fait.
Voilà, on revient à vous, Silas Makango, avec vous. Nous sommes en train de parler de la conscience collective ou du leadership collectif pour développer une nation. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens par les auditeurs. Si vous voulez intervenir, composez les 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Franck qui nous appelle depuis Vienne, Jérémy Mwambakial Bombashi. Mais avant de leur accorder la parole, je m'en vais rapidement lire quelques réactions sur la page Facebook. Parole aux auditeurs, il y a Guy Kambouyi qui nous écrit ceci depuis Kananga. La volonté communautaire est souhaitable, mais c'est à la volonté de celui qui a la gestion de la Respublica. Si on gère par défi et concurrence, les résultats sont toujours mitigés. Voilà. Poncien Bilomba nous écrit ceci. La République démocratique du Congo, bien qu'elle soit dotée de ressources naturelles incommensurables, il n'affiche aucun signe tangible de sortie du sous-développement à ces jours sur tous les plans économiques, social, infrastructurels. Le pays reste enfermé dans un cycle de la stagnation préoccupante. Ces constats accablants interpellent directement les autorités qui doivent impérativement mettre en œuvre les politiques ambitieuses et efficace pour tirer les pays de ce marasme. Il est inacceptable qu'une nation si riche continue de demeurer en marge du progrès. Le Congo mérite et doit se hisser à la hauteur de son potentiel et revendiquer la place qui lui revient sur l'échiquier mondial. On va lire d'autres réactions au fur et à mesure. Pour nous, il est temps de revenir au standard et d'accorder la parole à Franck qui nous appelle depuis Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour à vous tous au studio, mon cher Marcel. Bonjour à tous les amis de la radio Capi et aussi bonjour à l'invité du jour, monsieur Silas Makango, qui est avec vous sur place.
Silas Makango, voilà. Dites-nous, Franck, vous certainement. Ah, non, merci. D'accord, vous avez suivi certainement notre invité qui parle qu'aujourd'hui, la seule façon de bâtir une nation forte dans ce pays, il faut une conscience collective, un leadership collectif. Alors là, pour la plupart des Congolais, on a plus le regard tourné vers ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire la vision doit venir de ceux qui gouvernent, mais le problème est que la majorité de la population n'arrive pas à s'approuver cette vision. Voilà pourquoi l'Afrique, notamment la RDC, patauge encore.
Oui, merci beaucoup. Je dois commencer par lui dire merci pour ce décor hautement scientifique qu'il vient de planter. Je crois personnellement, je trouve comme lui, je pense comme lui que la thématique que vous avez sélectionnée pour nous la soumettre à un débat citoyen est une gamme de réalités sociopolitiques et culturelles dans lesquelles se trouve notre pays, la République démocratique du Congo, depuis des décennies. En principe, s'il faut être direct et concis, il s'agit ici d'une réalité liée à beaucoup d'aspects déficitaires qui caractérisent la mentalité et la psychologie socio-culturelle et politique de notre système éducatif congolais. Et pour le compléter, je vais plus m'appuyer sur les raisonnements d'un de mes professeurs de psychologie des mentalités et sociales à l'université d'Innsbruck en Autriche, le professeur Hans Gola, dans son ouvrage Das Rätsel vom Geist der Körper, je l'ai traduit en français, ça serait l'énigme corporelle et d'esprit. C'est quelque chose comme ça. Alors, dans cet ouvrage, le prof Hans Gola est en train d'expliquer qu'il y a des gammes de complexes dont souffrent beaucoup de citoyens, beaucoup de personnes dans ce monde, de ne pas vouloir voir les autres émerger ou convenablement rayonner. Et quand certains membres dans un environnement de vie cherchent à émerger, ils sont parfois combattus de l'intérieur même du même environnement. Ainsi, au lieu de promouvoir ceux qui ont des compétences, des capacités requises et des mérites, c'est parfois sur base de sélection, sur base de calculs ethno-communautaristes qui priment, et cela ne peut que freiner parfois le développement des sociétés. Et partant de cet aspect évoqué, on constate même qu'à beaucoup de niveaux dans certains compatriotes congolais ont de la peine pour d'abord aussi reconnaître les mérites ou les compétences des autres. Alors, au lieu de chercher à évoluer de manière synergique pour promouvoir les compétences, les capacités, pour avoir une vision commune afin d'obtenir aussi de bons résultats, comme on dit, l'union fait la force, la mentalité de nos compatriotes congolais, c'est de vouloir rayonner seul, c'est le chacun pour soi. Chacun se bat pour soi, il cherche à faire adhérer un certain nombre de personnes, mais au lieu de les utiliser convenablement, ils veulent seulement les assujettir. Et dans un processus de développement, cela ne peut que poser beaucoup de problèmes. Et par rapport à ce que l'invité venait de dire, si moi je dois me référer à ces deux descriptions de mon prof Hans Gola, il faut aussi comprendre que parler du développement dans un pays, c'est d'abord chercher à comprendre comment on peut mutualiser les compétences, les capacités, les intuitions rationnelles pour voir ensemble ce dont on a besoin et comment on peut les atteindre ensemble.
Voilà, merci.
C'est chercher à travailler de manière synergique, mais seulement, parfois chez nous, c'est par rapport à ce qu'il dit, les problèmes, c'est pas seulement du côté du peuple qui doit suivre les leaders, mais c'est parfois des leaders qui ne veulent pas aussi reconnaître les mérites des autres pour collaborer ensemble, parce que le leader est là pour canaliser les aspirations,
voilà,
pour
Franck,
orienter,
pour
encourager, pour motiver, montrer les chemins. Mais parfois, chez nous, nous avons des chefs qui veulent se placer au-dessus et au lieu de promouvoir ceux qui ont des compétences, ils cherchent à les étouffer pour qu'ils restent seuls pendant longtemps. Et c'est aussi un des problèmes. Et comme suggestion, c'est comme je l'ai toujours dit sur vos ondes, il faut revoir la conception de notre système éducatif.
Oui, Franck, l'invité l'a également dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à revoir ce système éducatif parce que le mal est tellement profond, c'est pas du coup comme ça que, c'est une baguette magique qu'on peut transformer l'homme congolais, mais si déjà on sait revoir le système éducatif congolais de manière à ce que déjà sur les bancs de l'école, déjà l'enfant de les bases âge puisse être formé sur des valeurs, sur la conscience collective, ça peut changer des choses. Franck, on vous dit merci parce que la dose auditeur qui aimerait également intervenir, merci d'avoir appelé depuis Venant en Autriche. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jérémy Mamba.
Bonjour Monsieur Marcel, hein. Bonjour également à l'invité. Moi je voudrais dire, au regard de tout ce que nous regorgeons ici comme potentialité, les paradoxes ne pouvaient même pas coller à notre pays aujourd'hui. Alors la RDC qui passe pour une vache d'ailleurs aller pour nos pays voisins, y compris les pays occidentaux. C'est pourquoi la raison des guerres à répétition que nous avons dans la partie occidentale de notre pays.
Alors, Jérémy, restons sur ces concepts de leadership collectif. On veut qu'on reste là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que selon l'invité qui est même l'auteur. Jérémy, s'il vous plaît, je suis quand même le modérateur. Laissez-moi essayer de canaliser les choses. On reste sur comment bâtir une nation forte en s'appuyant sur une conscience collective. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que on est encore dans les systèmes des pensées uniques où il y a ceux qui gouvernent qui pensent que c'est eux qui ont la meilleure des visions, ou vous pensez qu'il faut absolument, lorsqu'il y a une vision, que tout le monde puisse s'approprier de cette vision, et cela pourra aider les pays à aller de l'avant? Allez-y, Jérémy, on vous écoute maintenant. Restons sur cette thématique-là.
Je voudrais dire ceci, vous ne pouvez pas parler du leadership collectif si vous n'arrivez pas à favoriser d'abord la création des accords gagnant-gagnant. Ce concept, nous l'avons entendu longtemps dans la figuration, mais dans le concret, non. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'établissement d'une coopération à travers une variété de structures, y compris des comités de gestion et des programmes de formation pour le mode alternatif du règlement des conflits. Troisièmement, quatrièmement, il faut qu'il y ait la réduction des griefs tout en ouvrant la voie à un partenariat égalitaire sous une direction commune. On ne peut pas parler du développement alors que le développement, on ne peut pas parler du développement de la nation alors que le développement de son leadership n'en est pas un. Alors il faut respecter ces étapes. La première étape, c'est laquelle? Mieux se connaître. Ça, c'est la base même du leadership. Deuxièmement, il faut comprendre et agir sur son environnement. C'est ce qui échappe à notre pays. Troisièmement, il faut créer de la valeur pour son organisation. Aujourd'hui, nous regardons, on nous parle qu'on a détourné des dizaines de millions à gauche. On a détourné à droite. Mais personne n'a su créer une petite banque pour aider la population, peut-être dans les coopératives. Par exemple, pour les cultivateurs. On n'a pas fait ça. Et pourtant, avec 60 millions qu'on détourne à gauche, à droite, on peut se créer une petite banque. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État souffrent. Nous avons des banques étrangères, mais aucune banque, pas de banque ici chez nous. Alors, je voudrais dire ceci. Il faut peut-être, la quatrième des choses, qu'on puisse anticiper les évolutions. Les gens doivent se rassembler pour pouvoir poursuivre les changements dans l'ensemble. Et si la RDC veut participer au leadership collectif, elle doit d'abord amener ses gouvernants, y compris ses habitants, à donner un sens à leur expérience, et cela au regard de tout ce que nous avons ici sur le terrain. Et quand nous regardons aujourd'hui, il n'y a pas tout ce cas, ça n'existe pas. Quand vous regardez encore, il y a un autre point très important qui échappe. Vous pouvez avoir aujourd'hui dans notre pays, il y a des situations qui arrivent, mais on se pose des questions. Pour arriver à développer notre pays, nous devons...
Voilà, il y a des soucis avec la ligne de Jérémy Mwamba depuis le Lubumbashi. Mais vous avez compris, Jérémy, c'est ça même l'enjeu de ce magazine de ces jours, là, des intellectuels congolais qui réfléchissent par rapport à cet état dans lequel patauge la RDC plus de 60 ans après l'indépendance. Voilà, il y a un des intellectuels congolais qui estime que c'est simplement parce qu'il n'y a pas une conscience collective, il n'y a pas un leadership collectif. Voilà pourquoi le pays navigue à vue, et il faut absolument qu'on y arrive pour qu'on puisse bâtir une nation. Merci. Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. Amos, vous êtes à Bukavu. On vous écoute, Amos. Bonjour.
Bonjour Marcel. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi. Bonjour à l'invité présent au studio.
Merci. Vous avez la parole.
Merci bien. Au fait, je venais de suivre un prédécesseur qui ont donné de belles analyses par rapport à ce sujet au studio, pour ce qui est leadership collectif, mais aussi de la conscience collective pour permettre à notre pays de quitter la situation dans laquelle elle est actuellement. Une situation de honte, une image de honte. Au fait, selon mes analyses, je venais de suivre Franck qui a parlé du système éducatif. Je ne serai pas totalement d'accord avec lui, parce que ce qui nous dirige aujourd'hui, tous viennent d'où? certains parmi eux ont fait de très belles écoles. Ils ont étudié dans des écoles catholiques protestantes où on les a appris le bien-être, l'amour du prochain. Mais qu'est-ce qu'il nous faut une fois au pouvoir? Moi, je pense le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'avoir des dirigeants qui n'aiment pas le pays et qui n'aiment pas les Congolais. Il n'y a pas de question. On ne doit pas y aller par les dos de la cuillère. Je viens de donner seulement un exemple, Marcel. Avec le régime sortant, que nous avons qualifié de la Kabylie, tout le monde a diabolisé la Kabylie. On a dit que c'est la Kabylie qui était l'auteur de notre malheur, des tournements. Il n'y avait rien pour l'intérêt du peuple. Et on espérait d'Ali de Pes qui a fait 37 ans d'Alari.
Mais justement, Amos, c'est justement oui. Ça le problème selon l'invité, c'est-à-dire que on a plus le regard tourné vers ceux qui nous gouvernent, alors que chacun devait voir comment, à sa manière, s'approprier la vision d'un leader politique, la vision d'un chef de l'État, la vision. C'est ça le problème. Apparemment, les Congolais, on a comme l'impression on croise le bras, on tente de voir qu'est-ce que ceux qui gouvernent vont faire plutôt que de dire. Cette vision est une vision pour amener le pays vers l'avant. Comment tout ce qu'on peut se l'approprier, comment les hommes intellectuels congolais peuvent s'approprier la vision, comment fédérer toutes nos forces autour de cette vision, c'est ce qui fait beaucoup de problèmes. Rapidement, comment vous réagissez par rapport à cela?
Tout à fait, Marcel, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec l'invité.
Oui.
Mais ils ont ouvré. Est-ce que ceux qui nous gouvernent d'abord sont les mêmes modèles? Dernièrement, la première ministre de passage à Bukavu, je sais qu'elle est en train de suivre cette émission. Je lui ai dit, vous pouvez nous prêcher patriotisme. Nous sommes d'accord. Amour de la patrie, aimons notre patrie. Faisons tout pour mettre fin à cette agression. Je lui ai dit, oui, nous tous, ce pays nous appartient. Mais commencez d'abord par vous-même. Prenons seulement le petit exemple du train de vie des institutions. Ce pays nous appartient à nous tous. Et là, manquez quoi dire? Je lui ai demandé, vous touchez des milliers de dollars. Et vous donnez à un militaire, à un policier, à un enseignant 240 000 francs difficilement. Et puis vous venez nous chanter patriotisme. Que ça commence par vous. Et là, manquez quoi dire? Pour vous dire, Marcel, je suis totalement d'accord avec vous. Mais que ceux qui nous dirigent évitent d'abord l'égoïsme. Et tant que la politique sera prise comme du commerce en RDC, que tout le monde qui arrive au pouvoir, il fait tout pour s'enrichir avec sa famille, avec ses copains, avec ses copines, avec ses amis, au détriment de tous les Congolais. Vous voulez que les choses changent quoi?
Voilà,
le patriotisme,
merci.
Oui, mais
merci.
Je peux être pratique et non théorique.
Voilà, merci. Merci Amos, vous l'avez déjà dit, vous n'avez pas continué à le répéter, on a compris. Merci Amos d'avoir appelé depuis Bukavu. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour cher Marcel, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Capi. Cher Marcel, c'était un sujet trop pertinent, vu que la situation chez nous passe plus dans les côtés négatifs. Mais n'a déplaise, à mon avis, je vois que non. La base, donc lorsqu'on parle de leadership collectif ou de la conscience collective dans le développement d'un pays, je vois que non, la base d'abord, c'est l'éducation de base. L'éducation de base est la prise de conscience de nos gouvernants, de faire la différence entre les biens collectifs et les biens privés. Cher Marcel, aujourd'hui dans notre pays, nous avons plus d'écoles, nous avons plus d'églises. Ce sont les agents de l'éducation. Mais sur terrain, c'est une autre réalité en matière de l'éducation. À mon avis, le développement dans notre pays, c'est le changement de mentalité dans les bons. Puisque lorsque nous allons parler les problèmes de détournement, nous allons continuer toujours à parler les problèmes de détournement. S'il n'y a pas les changements de mentalité, et rien ne changera. Dès que nos gouvernements prendront la conscience de changer leur mentalité,
il y a quelques soucis avec la ligne de Blaise Saïdi. Vous parlez. Apparemment, ça marche de nouveau. Allez-y, Blaise, allez-y.
Oui, voilà. Je disais que non, la base, c'est l'éducation de base, cher Marcel.
Oui.
Puisque si aujourd'hui, les prises de conscience ont une bonne éducation, vraiment, ils doivent distinguer les biens privés et les biens publics. Aujourd'hui, on ne doit pas comprendre que non, parmi les gouvernants, on cite les détourneurs. Les détourneurs, ça fait la honte. Pourquoi
voilà,
tout ça, c'est à cause de l'éducation de base.
Blaise Saïdi, on en a déjà, celui qui vous a précédé, Amos, a déjà évoqué cet aspect des choses. On va progresser. Merci Blaise Saïdi d'avoir appelé depuis Kisangani. On va retourner à notre invité, mais avant d'accorder de nouveau la parole à notre invité, ses réactions de Kaïti Prosper depuis la ville de Bombashi sur la puissante, c'est grâce au leadership collégial, l'État congolais n'est pas l'unique organe pour que le Congo devienne un État puissant. Les privés aussi peuvent aussi contribuer par leurs moyens. Leur idée. La RDC a tout pour devenir une nation puissante, mais à cause des pensées égoïstes et politiciennes des autorités ainsi que des parties prenantes, ce rêve sur les scientifiques est loin d'être atteint. Le sous-développement de notre pays est causé par nos leaders, d'après lui. Voilà, on va encore lire rapidement ces réactions de Kaftas Kasungo, qui nous écrit depuis. Il n'a pas précisé. Nous avons un grand pays et beau, même alors que le développement de ce pays, il nous faut une grande implication du côté de nos gouvernants et de gouverner. Et pour nous, les gouverner, nous devons nous réveiller, ouvrir les yeux parce qu'un étranger n'est construit jamais chez nous, il ira toujours construire chez eux, alors que nous, Congolais, nous devons prendre les choses en main avec un grand amour de notre pays. Voilà. On revient à notre invité, Silas Makangu. Vous avez suivi les uns les autres. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup d'abord aux différentes personnes qui ont appelé pour intervenir. J'apprécie la pertinence de leur contribution. J'aimerais dire deux, trois petites choses, partant d'abord de ce qui a été dit par notre ami de Vienne concernant l'école. Vous savez, comme je le disais à l'entame de mon propos, les hommes qu'il faut pour ces pays ne viendront pas du ciel. Les hommes qu'il faut pour ces pays, ce sont des hommes que l'on doit penser, que l'on doit façonner au regard des enjeux, mais aussi au regard de la vision que nous voulons poursuivre en tant qu'État. Les Chinois ne sont pas Chinois simplement parce qu'ils habitent la Chine. Les Français ne sont pas Français simplement parce qu'ils habitent la France. Chaque pays a pensé ses habitants. Et malheureusement, le Congo est l'un des rares pays au monde dont les habitants n'ont jamais été pensés. Ils ont été pensés par le colonisateur. Ils ont été pensés par ceux qui ont conduit la traite négrière lors de l'esclavage. Ils ont été pensés pour asseoir la dictature. Mais aujourd'hui que nous voulons aspirer à un développement, nous nous rendons compte que la stature intérieure, morale, intellectuelle, spirituelle de l'homme congolais est en inadéquation avec ce que nous voulons poursuivre comme objectif. C'est là où nous disons que l'école doit devenir une véritable industrie de transformation et non pas un simple lieu de distribution de papiers qu'on appelle diplôme ou certificat. Et lorsque je parle de l'école ici, monsieur le journaliste, il faudrait comprendre que le changement dont nous avons besoin, c'est aussi celui qui consiste à tropicaliser notre école. Qu'est-ce que je vais entendre par tropicaliser? Parce que l'école telle que nous l'avons aujourd'hui, l'école que nous avons fréquentée, vous et moi, l'école que nous avons fréquente aujourd'hui, est restée conforme à l'école pensée par le colonisateur, qui lui avait pour vocation de fabriquer des exécutants et non pas des penseurs, non pas des savants. Or, aujourd'hui, nous voulons un Congo pensé par les Congolais eux-mêmes, alors que cette capacité à penser par soi-même ne nous est pas assez enseignée par l'école. Deuxième chose, lorsque je parle de la tropicalisation de l'école, notre système éducatif nous a appris à être meilleurs. Ce qui fait que le Congolais réfléchit généralement au singulier. Il pense qu'à lui, il pense qu'à sa petite famille, il pense à son estomac, il pense qu'à son avenir politique. Alors que l'école, déjà dès les bas âges, je suggérerais que déjà à l'école, que la plupart des examens, la plupart des exercices soient donnés aux élèves en leur exigeant de le faire ensemble, en groupe. Parce que quand vous allez par exemple dans des pays tels que le Sénégal ou le Mali, vous serez étonné du nombre d'entreprises créées par des jeunes gens qui sortent des universités. Mais généralement, ces entreprises ne sont pas l'œuvre d'un seul individu. Ils font ensemble, ils se mettent ensemble, 3 à 4, ils réfléchissent et ils créent un start-up, ils commencent à investir et demain ils finissent par devenir des millionnaires. Alors que chez nous, l'on préfère échouer seul que réussir ensemble. Et lorsque nous parlons de l'école, nous ne pouvons pas parler du système éducatif en impliquant que l'école. L'école n'est qu'un des segments du système éducatif d'un pays. Un homme n'est pas totalement formé par l'école parce que tout le monde déjà n'a pas la chance d'être formé à l'école. Ce qui signifie L'école doit être considérée comme un des segments du système éducatif, alors qu'il y a autre système, autre segment dans ce système éducatif. Un des exemples, c'est les médias. Est-ce que ce qui se donne dans les médias, ce qui se livre dans les médias aujourd'hui, contribue à la construction de l'homme congolais dont nous avons besoin? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'homme congolais copie plus ce qui passe dans les médias que ce qui est dit dans à l'université. Ainsi, vous aurez, par exemple, des ministres, des hommes politiques, des hommes d'église, dont le langage correspond au langage de la cité et non pas au langage de quelqu'un qui a été à l'école ou à l'université. D'autre part, lorsqu'on parle du système éducatif, il y a aussi l'art et généralement la musique. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que la musique a dans la transformation d'un peuple. Ce qui signifie que dans le système éducatif, il y a plusieurs segments. Il n'y a pas que l'école, il y a la musique, il y a la religion, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que le Congolais va écouter chaque dimanche à l'église?
Mais déjà, lorsqu'à l'université, on nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oui.
Mais qu'est-ce qui empêche un Congolais de s'approprier?
Mais on l'a juste dit. Et on doit aller au-delà de dire.
Au-delà de ça, c'est ça les grands problèmes. On revient à vous. Maître Patrick Odia nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Maître Patrick Odia.
Oui, bonjour Marcel.
Vous avez la parole, vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne, allez-y Maître Patrick, vous êtes en ligne, vous avez la parole.
Je l'ai toujours dit que je pense que ce monsieur Labbé, le plus grand chantier lequel le Congo n'ait jamais songé à pouvoir améliorer, c'est la construction de l'homme congolais. Il y a un ouvrage du recteur de l'université de l'ENIA, aux Nouveaux Horizons à Lubumbashi, le professeur Takizala, qui a parlé de on a tout essayé, mais sauf l'homme. Voyez-vous, les chaos que nous avons connus aux élections de 2023, ces chaos n'est que le résultat de la mentalité congolaise que nous avons aujourd'hui. Et cette mentalité nous poursuit dans tous les domaines, non seulement dans le domaine politique, même dans le domaine professionnel, même dans le domaine familial. Il y a toujours ces chaos-là, ces désordres également. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de sanctions. Moi, j'estime que la plupart des temps, nous avons tendance à pouvoir pointer du doigt aux décideurs politiques, mais nous oublions également notre part de responsabilité également.
Le chef de l'État, le président Fatih. Mais Maître Patrick, mais vous avez suivi, justement, c'est ce que l'invité est en train de décrier. Il estime que c'est ça parmi le mot qui freine le développement de la RDC, qu'on n'arrive pas à bâtir une nation forte simplement, parce qu'on a toujours ce regard tourné vers le gouvernant, vers ceux qui nous dirigent.
C'est ce que j'ai dit. Pourquoi également la responsabilité reviendra toujours au gouvernement? Parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, de sensibilisation. Aujourd'hui, on a créé une structure à la présidente. Les changements des mentalités, c'est pas moi. Est-ce qu'on peut évaluer le travail qui abat cette structure attachée à la présidence? Rien. Et j'estime également, par manque de sanctions, le peuple s'est dit que même si je veux faire son assali bouillé, bah, au salanga et l'oroté. C'est comme ça, on s'est dit. Parce que l'État, d'une part, ne sanctionne pas. Et quand l'État ne sanctionne pas, ça nous met dans tous les conflits également. Vous avez par exemple le chef de l'État qui vous dit que le peuple ne devait pas l'applaudir, devait être beaucoup plus exigeant. Mais vous avez un monsieur qui appelle le chef de l'État, les lions de la tribu de Juda, empereur. Quelques mois plus tard, c'est lui qui commence à plaire encore Mbokezo Tambolaté. Mais c'est lui en face du chef de l'État qui avait eu à l'appeler, qualifier les lions, l'empereur, les rois et tout. Mais après quelques semaines et plus tard, c'est lui-même qui prend également le même micro pour commencer à décrier devant le mausolée du chef de l'État que les mots que ce temps voulait libosoter, et ceux qui ne libosotaient. Non, vous voyez la qualité des hommes, et ce sont des gens qui sont, qui ont des responsabilités dans des structures politiques. Non, les partis politiques ont non seulement échoué la société civile également, même les églises également. La seule option que nous devons avoir ici, c'est les réformes, ce sont les réformes sur le système éducatif qui nous permettra de prendre un peu quelques consciences également pour être exigeants face aux défis de la vie également. Deuxièmement également, vous avez un VPM qui prend un ordre de mission, il arrive à Tchilingé chez moi pour inaugurer une fusque, une école et puis rentrer aux frais de l'État. Et nous, les peuples, nous sommes là, nous sommes en train de dire excellence, excellence. Mais nous devrions être exigeants, même si cela est profitable pour notre population. Mais nous devons être très exigeants quant à l'exécution de certaines mesures également, surtout dans la sensibilisation d'un programme politique.
Merci. Merci, Maître Patrick Odia. Vous avez insisté, il faut commencer en tout cas à ce chantier qui est un grand chantier, celui de la transformation de l'homme congolais. Merci, Maître Patrick Odia, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Marie-Paul Lawa, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marie-Paul. Marie-Paul Awa, vous êtes en ligne depuis Kisangani.
Oui, oui, je suis en ligne.
Allez-y, vous avez la parole, allez-y. On a des soucis avec la ligne de Marie-Paul depuis Kisangani. Donc, on va poursuivre avec notre invité. Le temps, comme je le fais chaque fois, lorsqu'il y a des problèmes avec nos lignes, j'en profite pour lire quelques réactions. Sur la page Facebook, par les auditeurs, il y a Patient Kadilo qui nous écrit. Le Congo, notre cher et beau pays, bien qu'il soit doté de toutes ses ressources, leur exploitation pour la production d'un bien commun. Pour la production du bien-être est liée à plusieurs facteurs, dont fait partie les manques d'attention du gouvernement, aussi les problèmes tributaires. Tout devrait aller par l'union de tous les Congolais, mettant à l'écart le tribalisme et permettant à chacun d'exploiter d'une manière durable n'importe quelle région du pays. Et vu que le développement de notre pays soit confronté à tous ces obstacles, les citoyens se concentrent sur la vie des politiciens et deviennent des combattants, chose qui multiplie les taux de chômage. Au pays, on va parler tout dernier auditeur Franck Candé qui nous appelle depuis Kinshasa et puis on va conclure avec notre invité Franck Candé. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Franck Candé.
Oui, bonjour à tous, à l'invité du jour.
Alors, que vous avez à nous dire par rapport au leadership collectif ou la conscience collective pour développer une nation?
Bon, jusqu'ici. Il n'y a aucune bonne conscience par rapport aux dirigeants congolais, disons, les cas qui est soulevé bien du gouvernement, qui est le point focal du leadership congolais, c'est là vraiment il faut. Bon, le développement du pays, de notre pays en fait, dépend de nous-mêmes. Si nous avons cette conscience, cette conscience, développer le pays, nous allons en bien développer, et sans compter aux jouissières qui sont dans les gouvernements.
Voilà. On a placé des temps, mais vous avez insisté que c'est un problème sérieux dans ce pays, le manque de conscience collective, faudra y songer. On prend la toute dernière intervenante, il s'agit d'une femme, on va lui accorder rapidement la parole, c'est Jemima, qui est candidate députée de Kinshasa Ngaliema, qui veut intervenir. Bonjour, Madame Jemima.
Bonjour, monsieur, comment vous allez?
Non, ça va, merci d'intervenir. J'ai vraiment signé, il n'y a que des hommes qui interviennent dans cette émission, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent aussi. Alors, rapidement, madame, votre intervention, on vous écoute. Vous avez 2 minutes, rapidement.
Oui, les sujets, c'était sur quoi? Parce que je ne te parle vraiment.
Oh là là. Mais rapidement, on est en train de parler de la conscience collective pour développer les pays. Parce que généralement, on a le regard tourné vers les gouvernants. Mmh. Alors, on pense que c'est tous les Congolais qui doivent s'approprier la vision des gouvernants pour amener le pays vers l'avant. En tout cas, c'est ce que pensent certains intellectuels congolais, dont notamment Silas Makangu qui a écrit ce livre, cet ouvrage Bâtisseur des Nations. Rapidement, madame. Votre réaction.
Oui, il s'agit d'avoir vraiment des personnes compétentes en matière gouvernementale premièrement, et à ce qui concerne les gouverneurs de la province de Kinshasa, il a fallu que notre gouvernement puisse avoir des personnes compétentes ainsi que des gens qui ont l'amour de servir le pays. Vous voyez, assez, dans le secteur de la RDC, nous là qui ne sommes pas vraiment, nous avons des visions, mais on n'a pas pu avoir des chances de pouvoir intervenir, faire de ce qui se soit pour compléter et soutenir la vision des chefs de l'État. Mais voilà, il n'y a que eux-mêmes qui s'est...
Mais voilà. Donc vous pensez qu'il faut des compétences et l'amour du pays, même si vous n'avez pas pu être élu, mais cela ne vous empêche pas de vous approprier aussi. Cela ne vous empêche pas d'accompagner la vision. Oui, la conscience, c'est question de la conscience.
C'est quelque chose de la conscience.
Voilà,
oui,
merci.
C'est de la conscience.
Merci,
et
madame.
La compétence, voilà.
Merci, madame. Désolé, vous nous avez pris vraiment vers la fin de ce magazine. Continuez à rester branché sur Radio Capi. Vous pouvez intervenir prochainement dans d'autres sujets. Voilà, on va conclure avec notre invité, Silas Makangu, qui a écrit ses belles ouvrages, Bâtisseurs des Nations, Émergence dans le leadership collectif. Donc, vous persistez, vous signez. Sans leadership collectif, sans conscience collective, Il ne faut pas rêver de bâtir une nation forte, puissante pour la RDC.
Non, on ne peut pas rêver de bâtir une nation solide, forte, une nation qui sert d'exemple à d'autres nations. J'ai l'impression que les Congolais, à chaque fois que l'on discute du leadership, que l'on aborde la question du leadership, tournent directement et se focalisent, braquent son regard sur le gouvernant. J'aimerais nous dire une chose. On peut réussir à développer une nation même avec un gouvernement faible. Mais on ne peut pas développer une nation avec un leadership faible. Là, il faut faire les distinguos. Parce que le gouvernant ici, le gouvernement ici, n'est qu'un des moyens, une des têtes qui constitue le leadership d'un État. Alors que le leadership, lui, il est pluriel. Voyez-vous, je le disais tantôt ici, la colonisation nous a défaits. La dictature mobutienne nous a défaits. Les méandres par lesquels nous a fait, nous sommes passés, nous ont défaits. Mais maintenant que nous voulons penser construire une nation forte, nous devons savoir que l'agent essentiel, l'acteur principal pour pouvoir bâtir cette nation forte et celui pour qui l'on bâtit cette nation forte, c'est les Congolais. Mais dans quel état se trouvent ces Congolais? Voyez-vous, dans quel état se trouve ce Congolais? Et je persiste ici que la grande crise, elle est d'ordre humain. Cette crise, c'est la crise d'homme. Donc ici, ce que je suggère, c'est que ceux qui nous gouvernent doivent penser, commencer à penser au-delà de la mandature. Penser le Congo de 2060 et se poser la question, quel type de Congolais il faudrait pour qu'en 2060, le Congo soit un pays au centre de l'Afrique, pas seulement du point de vue géographique, mais aussi du point de vue de l'influence et de la géopolitique.
Voilà, merci beaucoup Silas Makangu. Je rappelle que vous êtes conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui est devant mes yeux, Bâtisseur d'une nation, émergence d'un leadership collectif. Vous êtes également doctorant en politique internationale en management stratégique et opérationnel. Vous êtes également, je l'avais dit, pasteur et homme d'affaires. Merci d'avoir été de notre espoir.
Vous retrouver prochainement.
Voilà, fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieudonné Nyangasa qui est à la mise en œuvre, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.